7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, indifférents, voire défiants les uns par rapport aux autres, individualistes pour ne pas dire égoïstes, le portrait robot de l'homme du 21e siècle est loin de faire rêver. Alors que le bonheur est aujourd'hui un objectif personnel et même collectif à atteindre par tous les moyens, on entend souvent dire que tout était mieux avant. Mais nos ancêtres étaient-ils vraiment plus heureux? Hygiène, moyens de transport ou de communication, poids des mœurs, des traditions, en quoi nos sociétés ont-elles progressé depuis le Moyen-Âge et même depuis le siècle dernier? Et ces progrès nous ont-ils rendus heureux? Car la question est aussi là. Bonjour Jean-Louis Beaucarnot.
Bonjour Charlie Piau.
Vous êtes généalogiste et c'est à vous que nous avons emprunté le titre de notre émission du jour, d'après le livre que vous publiez tout juste, Nos ancêtres étaient-ils plus heureux? Bonjour Jacques Lecomte.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, expert en psychologie positive et vous publiez quant à vous Le monde va bien mieux que vous ne le croyez. Et Alexandre Jost, bonjour.
Bonjour Charlie Dupiot.
Vous avez, vous, fondé la fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen en France. Vous faites des préconisations aux entreprises, aux autorités publiques pour qu'elles rendent leurs citoyens et leurs salariés plus heureux. Nous serons en ligne un peu plus tard dans l'émission avec l'écrivain et journaliste britannique Tom Hodgkinson, auteur de L'art d'être libre dans un monde absurde, déjà best-seller en Angleterre et traduit dans 17 langues. Et vous, les voisins, les voisines, en quoi avez-vous le sentiment de vivre mieux que vos aînés, si c'est le cas? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous d'être heureux? Est-ce que vous-même vous vous sentez heureux, épanoui d'ailleurs? Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et puis vous pouvez aussi continuer à nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Sur Facebook, certains voisins réagissent déjà. C'est le cas d'Abdou à Maroua, au Cameroun. Je vous lis son message. Nos ancêtres menaient une vie heureuse. Aujourd'hui, l'industrie nous tue avec les produits toxiques dans les champs et à la maison dans nos aliments. Anandi nous écrit depuis Madras, en Inde. Sans aucun doute, nos ancêtres étaient plus heureux que nous. Certes, ils manquaient de moyens scientifiques, mais ils restaient unis en famille. Ils étaient moins matérialistes et moins individualistes que nous. Christophe nous écrit depuis Bébalem, chez moi, au Tchad, mes ancêtres mettaient presque une semaine pour arriver à N'Djamena par la route. Aujourd'hui, nous faisons le trajet en une seule journée. Je vous lis le message aussi de Moulabdoum au sud du Tchad. Il y a eu pas mal de progrès en quelques décennies. On disait par exemple que les maladies ne tuaient pas les enfants. Alors on mangeait sans même se laver les mains. La plupart des gens étaient à pied ou à vélo. Les moyens de communication étaient très rares et il fallait même toujours envoyer un coursier pour aller donner des nouvelles. Et puis Kevin est d'accord, il est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je vous lis son message. Partager, communiquer, s'aimer comme nos ancêtres, c'était très bien. Mais cette vie ne m'inspire pas du tout. Imaginez-vous une vie sans smartphone, sans chaussures, sans électricité, sans radio. Cette technologie nous facilite la vie et nous donne le goût de vivre. Pour moi, être heureux, c'est vivre en paix avec tout le monde.
Bon, c'était mieux avant, admettons. Mais quand exactement? Au temps béni des Trente Glorieuses? Le problème, c'est que chaque génération regrette les plaisirs perdus de la génération précédente. Et à ce petit jeu-là, on peut remonter assez loin.
On nous avait promis l'argent, le confort, les taxis volants. On nous disait que le bonheur s'obtenait en parfum. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Le futur, c'était mieux avant.
C'était mieux avant quand on payait en francs.
Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Ça fera 3 francs. Très bien.
Maintenant, bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Ça fera 1 euro.
J'adore vivre avec mon temps, mais c'était mieux avant. Encore les souvenirs me tournent autour. Tu vois, souvent avec des potes, on se dit que c'était mieux avant. La vie nous rend sérieux au fil des jours, tu vois.
Si toutes les générations depuis toujours regrettent un âge d'or passé, c'est pour une raison qui ne varie pas. Le présent est décevant et la vie n'est jamais à la hauteur de ce qu'on nous avait promis.
Les hommes se parlent plus, ils communiquent plus. C'était mieux avant. Ouais, c'est bien ça.
Réalisé par Sophie Jeannin. Jean Beaucarnot, vous posez la question dans votre livre « Nos ancêtres étaient-ils plus heureux ?» Vaste question, Jean-Louis Beaucarnot, pardon, à laquelle vous ne répondez pas, mais néanmoins vous revenez sur tous les progrès qui ont eu lieu en France depuis le Moyen-Âge, depuis l'Ancien Régime et même depuis le 19e, le 20e siècle. Aujourd'hui, nous aurions plus de raisons d'être heureux ?
Ah, vous m'avez dit, je ne réponds pas. Là, je n'ai pas pu répondre. Mon idée, c'est que chacun, chaque lecteur, se forge une opinion et essaie de conclure. Et je pense que c'est très, très difficile de savoir comme ça. Ça ne peut pas se réduire à une question. Et derrière cette question, il y a un petit peu, et là, on le sentait bien avec vos interventions, les interventions que vous citiez tout à l'heure, les messages que vous avez reçus. Il y a quand même d'abord la question de savoir si on serait capable de vivre, de survivre dans une société différente de la nôtre. Si on serait capable d'oublier le progrès et de regarder les choses autrement. C'est pas évident. Alors, dire c'était mieux avant, oui, on l'entend tout le temps. Mon bouquin, d'ailleurs, a commencé comme ça, parce que j'étais en week-end chez les amis, et le samedi matin, au lever, la bouilloire électrique est en panne. Donc, on se regarde, pas de café. Bah. Et là-dessus, les deux personnes qui nous recevaient avaient leur portable, une sans batterie et l'autre disparue. Donc, c'était mieux avant. Et là, on s'est retourné vers le généalogiste. T'es bien d'accord avec nous? Et j'aurais dit, chiche, comparons. Et ce qu'il faut, c'est comparer pour réfléchir. Je pense que la question ne tient pas à quelques mots, et la réponse encore moins. Mais il faut essayer de peser un petit peu, de voir, et de voir peut-être en quoi nous sommes différents de nos ancêtres. C'est nous qui sommes différents. Il y a la société, il y a le paysage, il y a le confort, etc. Oui, mais est-ce que nous ne sommes pas aussi différents?
Nous aussi, nous avons changé. Et pourquoi une telle nostalgie, Jacques Lecomte? Pourquoi on entend aussi souvent la phrase « c'était mieux avant » ?
Oui, alors, en fait, on oublie vite les bons côtés de la vie et on se souvient plus facilement des mauvais côtés. Et on a tendance, effectivement, à idéaliser le passé. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, faut le dire, parce qu'il y a eu des époques, par exemple, la Renaissance, les Lumières, on envisageait l'avenir meilleur. Il y a une sorte de syndrome collectif aujourd'hui, mais là aussi, c'est d'une part, c'est marqué dans l'histoire et c'est marqué aussi dans l'espace, parce que c'est pas le cas de toutes les cultures sur la Terre. Moi, je voudrais aussi souligner un point, c'est le rôle des médias qui est quand même important. Et je suis très heureux que vous, aujourd'hui, vous fassiez cette émission, disons, positive. Je vous donne un seul exemple. Quand on fait les enquêtes, on demande aux personnes, d'après vous, est-ce que la criminalité, elle a augmenté ou elle a diminué? En fait, la plupart disent, elle a augmenté. Et c'est faux. Par exemple, en Île-de-France, elle a été divisée par 3 en 20 ans. Mais les faits divers dans les médias ont été multipliés par 3 en 10 ans. C'est que les faits divers nous parlent beaucoup plus de crimes alors qu'il y en a moins. Et donc, on a l'impression que ça allait mieux avant parce qu'on avait moins d'informations sur les crimes. Vous voyez ? Donc là, le rôle des médias est important. Moi, je ne demande pas à ce que les médias se mettent la tête dans le sable et nous disent que des bonnes nouvelles, mais au moins, quand il y a une amélioration, qu'ils en parlent.
Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, quand on dit c'était mieux avant, on fait souvent référence plutôt au siècle dernier ou aux dernières décennies, rarement au Moyen-Âge. Dans votre livre, Jacques Lecomte, Le monde va mieux qu'on ne le croit, vous écrivez, chiffres à l'appui, ces dernières décennies, partout sur le globe et pas seulement dans les pays du Nord, la pauvreté, la faim, l'analphabétisme ont reculé.
Oui, et ont reculé de façon même impressionnante. Si vous prenez par exemple la faim dans le monde, ce sont 2 milliards de personnes qui sont sorties de la faim en 20 ans, 25 ans. Alors certes, il reste encore 800 millions de personnes qui subissent la faim, mais quand même 2 milliards qui sont sortis. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut envisager, je dirais, la fin de la faim. L'idée, c'est vers 2030. C'est la première fois que c'est envisageable de façon réaliste. Et si vous prenez la pauvreté, c'est 1 milliard de personnes qui sont sorties de la grande pauvreté dans les pays du Sud. Donc c'est quelque chose d'impressionnant. Et il y a de moins en moins de gens qui souffrent de faim et de gens qui sont pauvres, alors que la population a augmenté.
En plus de 25 ans.
Donc, mais c'est vrai que c'est important de le dire, parce qu'il y a forcément des poches de pauvreté, il y a forcément des poches de misère. Et si
donc
les médias mettent l'accent
parler,
là-dessus, on a l'impression que ça n'a pas avancé. Moi, vous disiez tout à l'heure, vous l'aviez fait dans une réunion d'amis, moi, ce livre, je l'ai fait à la suite des attentats de 2015, où tout le monde disait tout va mal. Mais en même temps, en 2015, l'été 2015, l'ONU avait fait un rapport qui montrait les 25 ans d'évolution de la société, et c'était plutôt positif.
Mais c'est le monde qui va mieux. Est-ce que l'homme va mieux?
C'est aussi la perception de notre monde. Alexandre Jost, justement, pour vous, il n'existe pas de lien entre richesse du pays et bonheur individuel?
Oui et non. En fait, en économie, il y a un paradoxe qui a le nom d'un économiste qui s'appelle Easterlin, le paradoxe d'Easterlin, qui suggère que lorsque le PIB d'un pays augmente, sa richesse par habitant, eh bien, le bonheur augmente, mais il augmente de moins en moins au fur et à mesure où on atteint des seuils de développement. Et de ça, on peut en déduire plusieurs choses. La première, c'est que la richesse n'est pas le niveau de développement, ne correspond pas au degré de développement du pays, d'une part, et d'autre part que si on observe la même chose au sein d'un pays à travers l'évolution de son PIB, eh bien que les hommes dans ce pays s'habituent, s'adaptent. On appelle ça l'adaptation hédonique ou l'accoutumance. En fait, lorsque mon niveau de richesse ou de mon pays augmente, je suis en permanence en train de rehausser mes attentes. C'est ça qui fait qu'on a une capacité d'adaptation, mais c'est ça aussi qui fait qu'on perd notre capacité à nous enchanter
et qui nous rend plus exigeants.
Qui nous rend plus exigeants, plus en attente d'eux.
Et comment alors on mesure le bonheur dans ce cadre?
Alors du coup, pour parer à ce paradoxe, aujourd'hui, la science du bonheur, la psychologie positive, les neurosciences, tout un tas de disciplines, se rencontrent pour chercher à comprendre mieux les mécanismes de l'épanouissement humain. Aujourd'hui, on peut dire d'une part qu'on sait appréhender les grandes facettes de l'épanouissement. Donc par facette, c'est les manifestations. D'une part, les émotions positives plutôt que les émotions négatives. D'autre part, la satisfaction de vie. J'ai des attentes. Est-ce que je suis en bonne marche vis-à-vis de ces attentes? Et enfin, ce qu'on appelle le bonheur aspirationnel, c'est est-ce que dans ma vie, il y a des choses qui la rendent plus grande? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que j'appartiens à un collectif? Est-ce que je me réalise? Et ces trois choses, plaisir, satisfaction et aspiration, c'est ça qui fait qu'on peut dire d'une personne qu'elle est heureuse ou non. Plutôt qu'une personne peut dire heureuse ou pas.
Et vous proposez donc un nouvel outil, l'indicateur trimestriel du bonheur des Français.
Oui,
il s'agit de la France.
On lui a donné un petit surnom, elle a aussi appelé le PIB du bonheur. Et pour nous, en interrogeant ces trois facettes, mais aussi tout ce qui fait tous les sous-jacents d'une bonne vie, donc la démocratie, la qualité de ses relations, son travail, la santé, en prenant en compte tous ces critères, on peut évaluer aujourd'hui le bonheur en France, qui est à un niveau environ de 60 sur 100, même si ça paraît comme le dirait notre ami écrivain journaliste, un peu illusoire de résumer par un chiffre l'épanouissement des hommes et des femmes.
Il y a donc des progrès à faire. Les voisins, les voisines, on attend vos témoignages, vos points de vue. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Et nous sommes en ligne avec un voisin, Janvier N'Djamena. Bonjour Janvier.
Bonjour Charlie Dupio et à tous les voisins.
Vous avez l'air enjoué, tant mieux pour cette émission. On vous écoute, Janvier.
Oui, je suis heureux aujourd'hui parce que les technologies m'ont beaucoup aidé. Grâce aux technologies, le déplacement, la pénibilité dans le travail, la sous-production ne sont qu'un souvenir du passé. En plus de cela, l'évolution scientifique a permis aux chercheurs de mettre à jour autant des vaccins et des sérums aidant à lutter contre les maladies. Mais ce que je déplore aujourd'hui, ce sont des conflits de tout genre dont l'humanité s'expose, à commencer par le terrorisme, les fusillades, les conflits politico-militaires, sans oublier les calamités climatiques. Or, tous ces problèmes n'étaient pas vécus par nos ancêtres. C'est à ce niveau que nos ancêtres sont plus heureux que nous.
Et vous-même, vous êtes chauffeur et vous dites que les déplacements sont plus aisés aujourd'hui.
Oui, effectivement, c'est un métier que je vis, que je fais quotidiennement. Je suis à l'aise quand je conduis le véhicule. C'est-à-dire que je ne ressens pas beaucoup plus de la pénibilité ni des contraintes extérieures. Être au volant, je suis beaucoup plus à l'aise et il y a la souplesse quand on conduit le véhicule. Donc, je me sens vraiment à l'aise dans ma conduite. C'est ce qui n'était pas le cas par le passé.
Merci Janvier pour ce témoignage. Un voisin donc convaincu que nous sommes plus heureux que nos ancêtres. Jean-Luc Beaucarnot, vous voulez réagir?
Je dirais que je crois surtout que nos ancêtres ne se posaient pas la question. Je rejoins un petit peu ce que disait Alexandre Josse tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Aujourd'hui, on ressent beaucoup plus les différences. On voit ce qu'on ne peut pas avoir. Autrefois, nos ancêtres, je ne vais pas dire étaient résignés, mais c'était quand même un petit peu ça. Il n'y avait pas les frustrations auxquelles peut-être nous pouvons être... Enfin, rien n'était vécu en termes de frustration. La personne qui voulait quelque chose qui n'avait pas les moyens de s'acheter... Ben, rêvait devant la vitrine et savait que bon, les riches pouvaient, puis elle ne pouvait pas. Aujourd'hui, la question ne se pose pas de la même façon. Aujourd'hui, on est sur une boutique, on est devant son écran, sur un site d'achat en ligne. Tout le monde peut cliquer et acheter. Mmh. Même celui qui n'a pas les moyens de payer. Tout a été nivelé, tout est très égalitaire et on n'a pas du tout ces sentiments de frustration. Enfin, on peut ressentir, si vous voulez, les choses tout à fait différemment de nos ancêtres. Et je crois surtout que nos ancêtres ne se posaient pas la question de savoir s'ils étaient heureux ou non.
Jacques Lecomte.
Oui, ben pour rebondir à ce que vous venez de dire, il y a pas mal de travaux de psychologie qui montrent que, en particulier, une des sources de mal-être, c'est la comparaison aux autres. C'est-à-dire que si on vit et puis qu'on vit ce qu'on vit, on aime ce qu'on aime, ce qu'on vit et on l'accueille. Par contre, si on commence à se comparer aux autres, on trouvera toujours, parce qu'en général, on se compare plutôt à ceux qui ont plus de biens, plus de facilité d'action que sais-je encore, ou en se faisant une image parfois un peu mythique du passé, on se compare au passé, eh bien, on a tendance à être plus malheureux. Et je crois que ce qu'il y a quelque chose de très important, c'est d'accueillir la vie telle qu'elle nous est offerte, et si, à moins d'être vraiment très malheureux financièrement ou relationnellement, mais de trouver du bonheur dans cette vie qui nous est offerte aujourd'hui.
Et aujourd'hui, l'information circule plus vite, hein, Jean-Louis Beaucarneau, avec les moyens de communication, on n'avait pas Internet, Facebook au Moyen-Âge.
Ah ben c'est évident, quand on voit que par exemple en 1766, lorsque le roi de Pologne, Stanisław Szegedzinski, est mort, il a fallu 8 jours pour que, en février 66, la nouvelle arrive à Versailles. Alors, et encore, on voyageait en petite journée parce que la nouvelle était acheminée par les moyens de transport de l'époque qui voyageaient en petite journée, c'est-à-dire qu'on était en hiver et on circulait, les kilomètres que l'on faisait chaque jour étaient moins importants que ce qu'on faisait en été. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est complètement différent. Et alors, j'aime bien comparer le migrant. Le migrant autrefois, le migrant aujourd'hui. Le migrant autrefois était confronté, alors, quel que soit le trajet qu'il fasse, que ce soit celui qui quittait son village pour aller à 100 km de chez lui, il lui avait fallu des jours de marche, déjà plusieurs jours de marche, ou celui qui traversait la France ou qui traversait la moitié de l'Europe, peu importe. Il arrivait dans un milieu qui n'était pas le sien, d'où il se sentait exclu, rejeté, il y avait une défiance. L'étranger commençait dans le hameau voisin, dans la rue voisine, donc voir cet homme arriver, qui n'était pas habillé comme dans le pays où il arrivait, qui n'avait pas le même parler parce qu'il y avait des dialectes, des patois, etc. On se méfiait de lui, on se défiait, et tout de suite, c'est les Italiens, les Rital qui arrivent en France à la fin du 19e siècle, qui sont, on leur prête tous les mots comme on l'a prêté à toutes les communautés qui ont démigré. Et là, ce migrant autrefois, il arrive dans un milieu qui lui est étranger, qu'il ressent hostile, qu'il ressent différent, etc. Et ben, il aimerait bien le soir, quand il arrive, quand il a posé son baluchon, il a la boule dans la gorge, il aimerait avoir un petit contact, être rassuré, etc., donner de ses nouvelles, rassurer ceux qu'il aime, etc. Il peut pas. Alors qu'aujourd'hui, dans la même situation, on envoie un petit SMS avec un smiley, un petit SMS avec une photo qu'on vient de prendre de la Tour Eiffel si on arrive à Paris, et tout va bien, on a donné des nouvelles, on sait qu'on n'est pas coupé. Autrefois, la coupure était complète, et l'indifférence était totale, l'hostilité était ressentie. On a là une évolution totale.
L'information circule plus vite, Alexandre Jost.
Moi, ce qui me frappe dans notre débat, c'est en fait notre tentative de distinguer le bonheur objectif et le bonheur subjectif. Le bonheur objectif, c'est toutes les conditions qui font que la vie est meilleure ou moins bonne, la démocratie, la santé. Et puis en même temps, il y a le bonheur subjectif. Et lui, il résulte de tellement de choses. Il résulte de mécanismes psychologiques, comme le disait Jacques Lecomte, avec le phénomène de comparaison. Il dépend de notre propre fonctionnement psychologique. Est-ce que je suis quelqu'un d'optimiste ou pas?
Est-ce que c'est beaucoup de questions personnelles, en fait.
Personnelles, mais aussi... mais culturel aussi.
Oui. On va revenir sur ces définitions du bonheur.
Charles Lecomte, je pense que le fait qu'autrefois les escaliers étaient moins durs à monter,
Jean-Louis
c'est quand même un mécanisme important.
Jacques Lecomte, Alexandre Jost, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après le flash d'infos sur RFI pour continuer de redonner espoir aux plus nostalgiques et aux plus renfrognés d'entre nous. A tout de suite les voisins.
Hey. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour parler du bonheur aujourd'hui, comment être heureux et profiter pleinement des progrès technologiques que nous offre notre époque. Car notre course à la performance va même jusqu'à inclure le bonheur. Il faut à tout prix être heureux, s'afficher souriant sur son profil Facebook, photo à l'appui. Il existera une réelle science du bonheur, mais comment donc le mesurer? Comment s'épanouir dans sa vie et puis au travail, hein, où l'on passe une grande partie de notre temps? Et puis sommes-nous d'éternels insatisfaits? Pour en discuter, nous sommes en l'heureuse compagnie de Jean-Louis Beaucarnot, généalogiste, auteur de « Nos ancêtres étaient-ils plus heureux ?», publié aux éditions J.C. Lattès. À vos côtés sur ce plateau, Alexandre Jost, vous avez fondé la fabrique Spinoza, mouvement du bonheur citoyen en France. Et également Jacques Lecomte, docteur en psychologie, vous publiez aux éditions Les Arènes « Le monde va bien mieux que vous ne le croyez ». Tout est dit dans le titre. Et nous sommes en ligne tout de suite avec l'écrivain anglais Tom Hodgkinson. Bonjour Tom Hodgkinson.
Bonjour.
Vous publiez le livre « L'art d'être libre dans un monde absurde », un best-seller déjà, dans lequel vous prônez l'allégresse et l'oisiveté. Alors pourquoi faudrait-il être oisif? Pourquoi faudrait-il, comme vous nous y invitez, résister au monde contemporain?
Well, I think there is one simple answer to both those questions, and that is freedom.
Eh bien, je pense qu'il y a une réponse simple pour ces deux questions. Cette réponse, c'est la liberté. La quête d'une forme de liberté dans la vie de tous les jours. L'oisiveté peut être vue comme une expression de la liberté et comme une réaction à l'industrialisation et aux excès du capitalisme. Je pense que notre temps libre, notre temps de loisir, c'est un temps important que nous pourrions bien mieux utiliser. En particulier aujourd'hui, je regarde autour de moi et je vois que les gens sont devenus esclaves des nouvelles technologies. Nous sommes totalement accros à nos téléphones. Les technologies qui devaient réduire notre journée de travail semblent l'avoir rallongée. Maintenant, on peut travailler en marchant, on peut travailler en étant au lit ou même quand on est malade.
Et vous écrivez dans votre livre « Ne faites rien, flânez ». Alors comment flâner quand on travaille et comment flâner dans un monde où on attend de nous que nous soyons performants partout?
C'est très difficile à mettre en œuvre, mais je pense qu'il y a quelques moyens très simples. Par exemple, prendre une longue douche, si on le peut, faire une longue marche, même près de son lieu de travail. On peut aussi essayer de travailler de chez soi ou à temps partiel, si c'est possible. On peut, quand on prend le métro ou quand on est dans le bus, prendre un bon livre pour faire passer le temps et ne pas se plonger dans son téléphone. Et puis, à une échelle plus large, politique, même si beaucoup ne sont pas d'accord, je serais d'avis d'instaurer partout une semaine de travail de 4 jours.
Et vous recommandez des attitudes très précises. Vous recommandez, par exemple, de se débarrasser de sa montre, d'apprendre à mieux gérer ses factures et ne pas se laisser dépasser, à ne pas avoir de dettes. Pourquoi recommander ce type d'attitude-là?
On ne se laisse jamais aller à la contemplation, à la rêverie quand on a une montre. Mais si on l'enlève, si on ne fait plus attention au temps, on pourrait se permettre cela. Et puis pour la question des dettes financières, je parle d'expérience, parce que j'en ai déjà eu et je sais à quel point ça peut être stressant, ça l'a été pour moi. Comme Socrate et d'autres philosophes grecs, je recommande la frugalité pour que les gens ne courent pas après l'argent, la richesse. Attention, je ne veux pas dire qu'il faille non plus être pauvre, parce que si vous vous souciez du moindre centime, si vous avez des problèmes d'argent, c'est extrêmement éreintant. Mais si on arrive à se libérer de cette contrainte financière, tout en vivant à hauteur de ses moyens, si on évite les grosses dépenses et si on arrive à garder la maîtrise de son budget au quotidien, ça peut vous rendre plus libre. Moins vous avez besoin de gagner d'argent, plus vous êtes libre.
Mais comment alors prendre le contrôle de ce qu'on gagne et de notre argent ?
J'ai peur que ça soit plutôt ennuyant. On peut écrire ses dépenses, son budget, on peut faire des économies par-ci, par-là. Je donne des conseils qui sont loin d'être bohèmes ou idéalistes.
Et c'est comme ça qu'on devient libre ?
Oui, c'est un des moyens pour y arriver. C'est une façon de prendre ses responsabilités.
Et vous recommandez, hein, rien que ça, de mettre fin à la tyrannie de la richesse et d'échapper à la prison du désir consumériste.
Oui, alors je ne demande pas aux gens de se promener en guenilles, mais nous avons, pour la plupart, une tendance à trop dépenser pour des bêtises. Par exemple, pour vous tester, vous pourriez consulter un catalogue de shopping, ou même aller dans un magasin de vêtements, et vous dire « je refuse d'être tenté par la moindre chose que je verrai et d'acheter quoi que ce soit ».
Et vous écrivez, une certaine aversion pour les tâches ménagères semble être une caractéristique innée, surtout chez les plus paresseux d'entre nous. Alors, pour pallier à ce problème, vous recommandez, entre autres, d'apprendre à aimer faire la vaisselle et de trouver la liberté, en fait, dans toutes les tâches ménagères, en aidant les autres, en effectuant toutes ces tâches à plusieurs.
Quand je parle de plusieurs personnes, je parle de mes enfants. Mais c'est une idée ancienne de se dire qu'à plusieurs, le travail est allégé. Et je pense qu'un de nos problèmes dans le monde moderne, paradoxalement, c'est la lumière électrique. Ça rend tout très visible, on peut voir la saleté très clairement. Alors si vous vous sentez fatigué, que vous ne voulez pas nettoyer la cuisine, mais que vous n'aimez pas non plus voir du désordre, une astuce très simple que j'ai à vous donner, c'est d'éteindre la lumière, d'allumer plutôt des bougies dans la pièce, et tout vous apparaîtra soudain très joli.
Être oisif et pas forcément très propre. Aujourd'hui, votre livre est un best-seller international. Il a été traduit dans 17 langues. Comment vous expliquez le succès de ce livre ?
C'est à cause de ce grand sentiment d'anxiété que les gens ressentent. Beaucoup ont envie d'un changement positif dans leur vie. L'un des effets de mon livre, c'est qu'il a pu permettre à certaines personnes qui l'ont lu de ne plus se sentir seules. On m'a dit, vous avez mis des mots sur un sentiment que j'avais. Certains, par exemple, m'ont dit qu'ils se sentaient piégés dans un travail qu'ils n'aimaient pas ou qu'ils s'ennuyaient dans leur vie. Ça a été le cas avec les philosophes grecs. Je parle encore d'eux, mais ils ont ressenti, eux aussi à leur époque, une forme d'anxiété. Et ces philosophes en sont alors arrivés à conseiller, passez un peu plus de temps à philosopher, à réfléchir à comment vous pouvez vivre une belle vie. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul à propager ce message. De nombreux économistes britanniques, notamment, affirme qu'à mesure que nos sociétés se développent et deviennent plus sophistiquées, nous devrions chacun avoir plus de temps libre dans lequel nous pourrions être nous-mêmes. Et cela peut vouloir dire, selon la personnalité de chacun, être par exemple philosophe à nos heures, ou bien un peu artiste ou créatif, ce qui nous correspond le plus. Et ainsi, on se sentira moins piégé et moins bloqué.
Merci Tom Hodgkinson. Je rappelle que vous publiez le livre L'art d'être libre dans un monde absurde aux éditions Les Liens qui libèrent, ça ne trompe pas. Alors Jean-Louis Beaucarnot, je me tourne vers vous. Au Moyen-Âge ou sous l'Ancien Régime, nos ancêtres n'étaient pas libres.
J'écoutais cet auteur et c'est vrai que nos ancêtres n'avaient pas de montre, nos ancêtres n'avaient pas de dettes. Oh, on a toujours fait des dettes si on avait envie d'en faire, mais ils n'avaient pas d'argent. Il n'y avait pas de lumière.
Il n'y avait pas de lumière.
Chez eux, il n'y avait pas l'électricité.
Pas de problème d'électricité.
Est-ce qu'ils étaient pour autant plus libres ? Non. Parce que ça ne donne pas automatiquement la liberté. Nos ancêtres n'étaient pas libres. Nos ancêtres n'étaient pas libres en sens qu'ils n'étaient pas affranchis. Ils n'étaient pas affranchis des conventions sociales, ils n'étaient pas affranchis de la hiérarchie et du qu'en dira-t-on, ils n'étaient pas affranchis de la religion. Donc, très souvent, ils se bridaient. Hein. Aussi bien les hommes que les femmes.
Alors justement, Alexandre Jost, vous vous êtes intéressé à la question du bonheur des hommes et des femmes et l'analyse que vous en tirez est assez surprenante.
Ah oui, en fait, on s'aperçoit que malgré les avancées en termes de droits des femmes, en termes démocratiques, en termes de participation à la vie publique, en termes de travail, d'accès à des comptes, etc., eh bien, depuis 1950-60, sur les 40 années qui ont suivi, eh bien, le bonheur respectif des femmes
en
par
France.
Rapport aux hommes en France, non, dans le monde occidental en fait, a diminué. Donc les positions se sont inversées. C'est Stevenson et Wolfers, deux chercheurs qui ont travaillé là-dessus.
Alors qu'elles ont acquis plus de droits.
Plus de droits. Et on est face à ce paradoxe toujours, qui est que en même temps que leurs conditions de vie objectives s'amélioraient, eh bien leurs attentes augmentaient. Leurs attentes en termes d'égalité avec les hommes, en termes de satisfaction dans leur vie familiale, mais aussi dans leur vie professionnelle. Et donc, pour moi, l'enseignement, c'est de voir le bonheur comme une sorte de poupée russe ou de boîte dont on ouvre des compartiments au fur et à mesure. Lorsque tout d'un coup, vous découvrez que le bonheur peut ne pas seulement émotionnel, mais qu'il peut être aussi intellectuel, et qu'ensuite, il peut être éventuellement spirituel, chaque fois, vous ouvrez un nouveau champ dans lequel vous aurez des attentes. Et ces attentes vont à la fois augmenter la qualité de votre bonheur, mais en même temps, elles vont créer des complexités pour arriver à vous développer et à être pleinement humain et heureux sur tous ces aspects.
Alors Jean-Luc Bocarnot, j'aimerais qu'on revienne sur un des progrès de nos sociétés que vous citez dans votre livre, celui qui concerne l'hygiène, notamment dans la ville de Paris, qui avait longtemps la réputation d'être très sale. Dans un document que vous avez retrouvé en 1797, un visiteur de passage dans la capitale française écrivait être, je cite, « indigné de la malpropreté de Paris, humilié de ne pouvoir marcher dans la métropole où siège notre Sénat sans trouver des amas d'immondices, des tas de décombres, des bouteilles et des verres cassés, de voir éparses des membres de bêtes mortes. » Bref, vous revenez sur la difficulté aussi au niveau de l'hygiène dans la capitale française.
Oui, mais tout le monde le considérait à peu près comme normal. Hein. Pourquoi ? Parce que les villes, la capitale était une grande ville, les villes étaient nées de la campagne. Hein. C'est presque du Ferdinand Lope, mais c'est ça. Et pendant très longtemps, les villes ont vécu encore au rythme des campagnes, en ce sens qu'il y avait des poules, des chèvres pour avoir du lait, des moutons et des cochons qui allaient librement, au point que je crois que c'est Louis VI le Gros qui a pris une disposition contre les cochons allant dans les rues de Paris librement, parce que un de ses fils a été renversé un jour par un cochon et il en est mort. Un accident mortel. On n'était pas renversé par une voiture, mais on mourait d'un accident, d'une percussion avec un cochon. Saint-Louis se promenant, allant écouter les matines un matin à l'église, a reçu un pot de chambre sur la tête parce qu'un étudiant qui avait travaillé très tard, il n'y avait pas de tout à l'égout, a jeté son vase de nuit. Donc il lui avait fait donner une prébende à l'étudiant et une bourse pour qu'il puisse quand même se reposer un petit peu, dormir la nuit. Mais voilà, on en était là. Et quand on décrit le jardin des Tuileries en 1781, le jardin des Tuileries était un rendez-vous général. Tous les chieurs se rangeaient sous une haie d'if et là, ils soulageaient leurs besoins. Les terrasses des Tuileries étaient inabordables par l'infection qui s'en exhalait, dit Jean-Sébastien Mercier dans son tableau de Paris, rédigé cette année-là. Voilà, on faisait comme on pouvait, mais la gestion des excréments, de l'urine, a demandé toute une évolution. Pendant très longtemps, le cheval qui passait et qui faisait du crottin de cheval dans les rues en tirant son fiacre, eh bien, voyait une armée de ménagères arriver avec des seaux et des pelles pour récupérer le dit crottin et enfumer le petit jardin qui était derrière la maison. Et on se battait.
Alors, pour aller sur un tout autre sujet, on va aussi poser bien sûr la question du travail, hein, comme l'abordait Tom Hodgkinson dans l'enquête nationale de la CFDT de 2017. Un tiers des Français disent avoir déjà vécu un burn-out, un syndrome d'épuisement professionnel. Également, un Français sur quatre déclare ne pas être heureux au travail. Jacques Lecomte, être heureux au travail, c'est encore un défi quand on parle de bonheur.
Oui, c'est un défi, mais là, ce que vous venez de dire, c'est l'inverse, c'est que les trois quarts des Français se disent heureux au travail.
Il
y a eu quatre enquêtes ces dernières années, entre 2013 et 2016, qui ont toutes les mêmes chiffres, c'est 73 à 75%. C'est pas rien quand même, soit heureux, soit très heureux au travail. En fait, comment dire, en général, quand on pose la question aux gens, la plupart des gens disent « donc je suis heureux ». Mais est-ce que les gens, autour de vous, est-ce que les gens sont heureux au travail ? Non. C'est-à-dire que les gens pensent qu'environ, enfin, la réponse, à peu près 10% des gens sont heureux au travail d'après les sondages. Mais en fait, quand on interroge les gens, c'est 75%. Donc il y a une totale disparité entre l'image qu'on a des gens au travail et la réalité concrète.
Et est-ce que vous avez des éléments de comparaison dans le temps ? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes similaires qui ont été menées avant les 35 heures ? Avant les RTT,
pour voir les progrès.
Je pourrais vous dire, moi, les enquêtes que j'ai vues, elles sont dans les 5-10 dernières années.
Oui. Alors, on va voir comment injecter plus de bonheur dans le monde du travail, notamment les voisins, les voisines. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de cette question du bonheur. La fête n'est pas encore finie, contrairement à ce que nous chante Aurel San.
Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un de tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamine. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La fête est finie. un jour tu demandes qui c'est ce gros porc dans la glace. C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois marches. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta AAF. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune poule, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé trois mois de stress pour 30 minutes de plaisir. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La
Jean-Louis Beaucarnot, vous l'écrivez aujourd'hui, on est souvent dehors, à l'extérieur, pour travailler ou autre d'ailleurs.
Ben, moi, si vous voulez, j'essaie de comparer. Quand je décris la vie de nos ancêtres, je regarde des comparaisons et souvent je joue au jeu des sept différences. Je mets un faire-part de mariage aujourd'hui, un faire-part de mariage d'autrefois et je dis, recherchons les différences. Et vous verrez, parce qu'à partir de là, on voit toute l'évolution et on peut travailler un petit peu. Et c'est pareil là, je dis, promenons-nous dans une rue, ou dans un lotissement à la tombée de la nuit, et regardons et on est frappé, moi je suis frappé du nombre de lumières éclairées. Il y en a très très peu, elles sont toutes éteintes. Vous appelez les gens chez eux sur leur téléphone fixe, ça ne répond jamais, vous n'avez que des répondeurs. Ça veut dire que les gens ont beaucoup investi dans leur appartement, ils sont contents de leur appartement, ils ont tout le confort dedans, ils ont des tas de gadgets qu'ils ont achetés très cher, etc., etc. Bon, et à côté de ça, société des loisirs, ils sont au cinéma, ils sont au restaurant, ils sont chez le kiné, ils sont en voyage, ils ont pris un truc sur Last Minute le matin même, etc. Ils ne sont pas chez eux. Donc à quoi leur sert tout ça? Ils stockent tout ce qu'ils ont acheté à la société de consommation, dont ils profitent peut-être certainement moins que nos ancêtres qui avaient souhaité, désiré, économisé sou pour sou, sou par sou, pour acheter un truc et qu'ils usaient jusqu'à la corde.
Alexandre Jost, alors là, effectivement, on parle du fait qu'on est souvent dehors, pour travailler. Et vous conseillez des entreprises sur le sujet du bonheur au travail. Alors, qu'est-ce que vous préconisez?
Nous, on préconise à la fois au pouvoir public et aux entreprises. Au pouvoir public, on pense qu'il faudrait rendre obligatoire le fait de mesurer l'épanouissement au travail, que les entreprises puissent choisir comment elles le font, bon, être guidées, mais choisir de telle sorte à avoir une référence et une invitation aux managers à améliorer les choses. Et ensuite, aux entreprises elles-mêmes, eh bien, aujourd'hui, on connaît les pratiques qui favorisent l'épanouissement. L'une d'entre elles, qui est cristalline pour moi, c'est les entreprises libérées qui disent « Est-ce qu'on peut créer une gouvernance dans laquelle chaque collaborateur est en totale liberté pour prendre n'importe quelle décision relative à son travail ?» sans être entravé par une hiérarchie ou par des processus. Et donc, tout ce qui peut contribuer à mettre en place cette forme d'autonomie-là, et c'est positif dans l'entreprise. Et peut-être deux points un peu plus pratiques. Le premier, c'est se dire, créons des espaces de parole dans l'entreprise au sein desquels les collaborateurs peuvent dire, voilà comment on pourrait mieux travailler.
Donc des temps de parole hebdomadaires, par exemple.
Oui, hebdomadaires, mensuels. Et donc ça remonte aux années 70 en France, mais ça reste moderne dans l'esprit. Et puis, une autre idée, c'est un peu plus inattendu, c'est créer des communautés de gens motivés par l'épanouissement au travail. On appelle ça des passeurs du bonheur au travail et des gens qui, ensemble, de manière organique dans l'entreprise, se rassembleraient pour imaginer des choses afin que leur organisation soit un peu plus vertueuse en termes d'épanouissement au travail. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul en entreprise. Et chaque collaborateur qui pense la même chose, c'est-à-dire qu'il est possible d'être plus heureux, eh bien, on peut amener des solutions. Les solutions, elles existent au sein de chacun des
travailleurs. C'est aussi impliquer en fait, les salariés hein, dans le fonctionnement de l'entreprise. Jacques Lecomte, vous aussi, vous vous intéressez à la question du bonheur au travail, puisqu'elle est importante, essentielle.
Oui, c'est important. Et en fait, c'est dépend d'un certain nombre de facteurs. D'abord, c'est pas un scoop, c'est de faire un métier qu'on aime. Bon, ça, c'est bien connu. Il y a une deuxième chose, c'est les bonnes relations avec ses collègues et plus encore avec sont supérieurs hiérarchiques. Et une troisième raison, c'est de faire un métier dont on a le sentiment qu'il est utile à la société. Et ça avait longtemps été évacué, mais c'est très important. Alors sur les relations interpersonnelles, c'est un élément majeur. Et les managers, ils ont un rôle très important. Par exemple, de faire confiance, lorsqu'un responsable hiérarchique fait confiance à ses collaborateurs, eh bien, contrairement à une idée commune, les collaborateurs, ils n'en profitent pas pour en faire le moins possible. Au contraire, ils s'investissent. Quand on met en place des systèmes de coopération, il y a des managers, ils pensent qu'il faut, pour qu'il y ait de la niaque, pour qu'il y ait de la productivité, il faut mettre les équipes en compétition les uns envers les autres. C'est totalement faux. On est dans un monde où on aura de plus en plus besoin de coopération et les gens sont plus heureux, sont plus efficaces quand ils coopèrent. Voilà, c'est le genre. Et alors, juste un truc, d'ailleurs, un petit détail sémantique. Souvent, on dit travail collaboratif et ou coopératif. Moi, je préfère coopératif parce que collaboratif, ça veut dire collaborer, travailler ensemble, et coopérer, c'est construire une œuvre ensemble. Et bien, je pense que dans les entreprises, on peut construire des œuvres communes.
Et j'ai du peu un petit rebond. On parle du travail parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps dans la vie. Mais en fait, la première activité en France après le sommeil, c'est regarder la télévision sur toute une vie. Et les économistes suggèrent que la raison pour laquelle l'augmentation du PIB en France ne délivre pas le bonheur, c'est parce que le temps économisé à travers les décennies, eh bien, a été occupé par la télévision, qui rend plus matérialiste, plus violent, plus inquiet sur sa propre existence, vous fait comparer la beauté de votre femme à celle des actrices que vous voyez à la télévision, etc. Donc, la télévision.
Donc, éteignez vos postes de télévision, les voisins. Jean-Louis Bocarno.
Pas la lumière, mais la télévision. Oui, voilà. Mais c'est vrai que la télévision et Internet, c'est eux qui ont quand même fait passer le monde. Le plus révolutionné le monde, parce que tout à coup on se trouve avec tout à portée de main et on se trouve avec un nivellement complet. Autrefois, pour avoir un renseignement, celui qui n'avait pas fait d'études, il allait voir celui qui était investi de connaissances, etc., qui avait des outils de connaissances, des bouquins, etc., et il y avait toute une démarche qui était souvent délicate, il fallait être en confiance pour aller voir, etc. C'est comme celui qui passait par l'écrivain public pour faire envoyer des nouvelles à sa famille. Aujourd'hui, on a à portée de main, à portée de clic, tous les outils qui peuvent nous donner accès à la même chose que le voisin. Chose que les 7 milliards de voisins.
En tout cas, ce que nous apprennent nos ancêtres, c'est qu'il faudrait peut-être mieux arrêter de se plaindre et se tourner vers le futur.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, mais entre nous, là, entre les voisins. Hein,
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Tout n'était pas mieux avant. Il y a quand même du positif aujourd'hui. Bonjour Didier Akouété. Didier Akouété, bonjour.
Alors, bonjour.
On vous entend, tout va bien. Les voisins vous connaissent bien, vous qui êtes leur coach, qui conseillez aussi ceux qui veulent entreprendre. Alors, vous organisez un forum qui peut en intéresser certains, et c'est important d'en parler aujourd'hui. Il faut en parler car l'échéance approche. Ce forum est à Kigali, où vous êtes, au Rwanda. Et en fait, il s'agit de permettre à des gérants de PME, de petites et moyennes entreprises, de rencontrer des partenaires financiers.
C'est exactement ça. C'est la quatrième édition du forum SME and Banking Africa Forum qui permet aux PME de rencontrer des banques, des fonds d'investissement, des business angels pour financer leurs activités. Parce que comme vous l'entendez souvent dans l'émission, la plupart des entrepreneurs qui les appellent, 70% ont un problème de financement. Et encore, ça c'est au début de l'activité, mais même lorsque l'activité se développe, il y a nécessité de renforcer parfois les fonds propres ou d'avoir un peu plus de souplesse de fonctionnement au niveau financier pour développer le business. Donc c'est vraiment ça, un des sujets du forum. Et puis deuxièmement, c'est aussi beaucoup de formation. Donc on a beaucoup de masterclass pendant le forum qui permet vraiment de faire l'acquisition d'expertise. Par exemple, comment on revoit son business model d'entreprise, comment on gagne des nouveaux clients sur de nouveaux marchés, comment on lance des partenariats stratégiques, comment on discute avec un fonds d'investissement. Donc, plusieurs sessions qui vraiment permettent aux patrons de PME, en 3 jours, d'avoir une physionomie différente de leur business et éventuellement de lever des financements. Parce qu'à peu près 20% des PME qui viennent à ce forum arrivent à trouver un financement. Donc, c'est plutôt positif.
Et vous attendez combien de gérants de PME et puis dans quel secteur ?
Alors, environ 300 PME sont invités chaque année dans des secteurs aussi divers que l'agro-business, que les technologies, que le tourisme, que l'énergie, que la production. Donc, on a à peu près une trentaine de secteurs d'activité représentés avec des PME qui viennent de différents pays. Et ça aussi, c'est une bonne occasion pour des PME qui veulent aller sur des nouveaux marchés, de rencontrer d'autres PME qui interviennent dans notre pays pour voir comment elles peuvent travailler ensemble, elles peuvent collaborer, elles peuvent accéder à de nouveaux marchés ensemble.
Et puis combien de partenaires financiers? Et puis des partenaires de quel type? Des banques, mais pas seulement?
Alors nous avons entre 80 et une centaine d'institutions financières, donc des banques commerciales, des fonds d'investissement, des business angels, des fonds de garantie. Donc une espèce d'écosystème d'acteurs financiers qui finalement aide la PME, parce que parfois c'est pas juste la banque qui peut accompagner la PME, c'est peut-être le fonds d'investissement, ou parfois la banque dit « moi je veux bien vous prêter, mais il me faut une garantie », et là le fonds de garantie vient en support à la banque pour que la banque soit plus confortable. Donc c'est autant d'acteurs qui sont réunis pendant les 3 jours pour justement permettre aux PME de comprendre un peu quels sont les mécanismes financiers qu'elles doivent utiliser pour accéder plus facilement au financement.
Et ce forum se tient du lundi 13 au mercredi 15 novembre inclus à Kigali. Où ça précisément?
Alors c'est au Convention Center de Kigali, qui est un très beau Convention Center qu'ils ont construit il y a 1 ou 2 ans maintenant. Et il faut s'inscrire sur le site du forum qui est africa-smechampion.com.
Merci Didier Akwete d'être intervenu en cette fin d'émission. Je rappelle que vous organisez donc le forum, alors je vais le dire en anglais, SME and Banking Africa Forum à Kigali la semaine prochaine, du lundi 13 au mercredi 15 novembre. Alors être un entrepreneur heureux, on espère que c'est possible. En tout cas, merci à vous tous d'être venus nous rassurer. Jean-Louis Bocarnot, je rappelle le titre de votre livre « Nos ancêtres étaient-ils plus heureux ?» publié aux éditions J.C. Lattès. Merci à vous Alexandre Jost de la fabrique Spinoza, merci également à vous Jacques Lecomte, vous publiez Les entreprises humanistes aux éditions Les Arènes. Merci également à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, bien sûr Sophie Janin à la réalisation, Cécile Lavolo, Arthur Tossou en coulisses, Baptiste Madinier pour vous répondre les voisins, et puis merci à vous bien sûr les voisins, les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, la solitude des jeunes à l'heure des réseaux sociaux et de l'hyperconnexion. Comment expliquer que ce sentiment soit aussi répandu? Quelle solution pour ces jeunes? Alors si vous vous sentez seul, les voisins, vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. À demain les voisins.